En fait, c'est bien hein, de commencer en priant. Hein. Alors, je vous propose, on va recommencer. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont-Carmel, notre Mère, Sainte Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, ce matin, j'ai essayé d'évoquer un peu avec vous hein, cette grâce de Sainte Thérèse, hein, qui est la grâce d'une mère, et qui veut entrer en relation avec nous pour nous aider dans notre chemin spirituel. Et j'avais un peu lourdement insisté sur le fait que l'itinéraire de Sainte Thérèse, hein, c'est un itinéraire qui est charismatique au sens où le Seigneur l'a modelé, parce qu'il est comme une prophétie du propre, de notre propre itinéraire. Alors, je voudrais consacrer l'enseignement de cet après-midi à regarder ensemble l'itinéraire de Sainte Thérèse. Ce matin, quand on a vu à toute vitesse les grandes dates de la vie de Thérèse, je vous ai dit, il y a bon, évidemment la naissance, la mort, et au milieu, il y a une date clé, qui est à la date de la seconde conversion, ce qu'on appelle couramment la seconde conversion. Cette seconde conversion, vous venez de passer une heure à la regarder de près, hein, avec le texte majeur, central, de vie 8 au premier paragraphe du chapitre 9 hein, de la vie. Alors je vous propose, on va commencer, puisque c'est le centre, on va commencer par regarder ensemble le centre, et puis après, eh ben, ce centre va projeter un éclairage sur ce qu'il y a eu avant, et sur ce qu'il y a eu après. Donc on ne va pas suivre, ça changera un peu, on ne va pas suivre le déroulé chronologique, si vous voulez, de la vie de Thérèse, mais on va prendre un regard de haut, à partir du mystère de ce que le Seigneur lui a fait vivre. Alors, ce centre, hein, cette seconde conversion, Thérèse a... je dresse très rapidement le tableau. Thérèse a 39 ans, elle est religieuse depuis à peu près 19 ans, dans une communauté qui est, bon, en 1554, elle doit être à peu près 140, 150. La situation est un peu compliquée parce qu'il commence à pas avoir de quoi nourrir toutes les sœurs, mais c'est pas non plus, il faut pas noircir le tableau hein, de la communauté de l'incarnation en faisant quelque chose d'absolument apocalyptique. Hein. C'était pas, on n'y menait pas une vie religieuse scandaleuse. Il y avait, on pourrait dire, trois difficultés. La première difficulté, c'est que les sœurs étaient très nombreuses et que, évidemment, quand vous êtes 140, 150, c'est difficile pour le recueillement. Hein, parce que si on a, il y a statistiquement plus de chances qu'il y en ait une qui parle. Donc ça est lié à cette première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que en fait, il y avait des rentes pour en nourrir 60. Et donc, il n'y avait pas de quoi nourrir tout le monde. Évidemment, quand vous avez faim, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plus difficile de vous appliquer au recueillement. Et voilà, vous avez une tendance à vous recueillir uniquement sur quelque chose, c'est le prochain repas. Donc là, c'était une deuxième difficulté qui causait tout un tas, effectivement, de désordres, en particulier le principal dont Thérèse a eu à souffrir. C'est que, évidemment, les prieurs étaient toutes disposées à laisser partir les sœurs pour qu'elles soient nourries dans leur famille ou dans des familles amies. Ça faisait autant de bouches le moins à nourrir. Et puis, une troisième difficulté, c'est que, quand même, sur les 150, toutes n'avaient pas la vocation. Et un certain nombre étaient rentrés au couvent. Pourquoi ? Parce que tous les hommes étaient partis aux Indes. Pensez que tous les frères de Thérèse sont partis comme conquistadors aux Indes, sauf un qui est mort avant d'avoir eu le temps de partir. Et il était dans l'Espagne de l'époque, il était inconcevable pour une femme de rester célibataire chez elle ou chez ses parents. Il fallait soit se marier, soit rentrer dans la vie religieuse. Ce que Thérèse appelle, c'était l'expression consacrée de l'époque, « tomar estado », prendre un état, hein, qui est une expression qui revient comme un refrain dans le chapitre 3 de la vie. Quand il fut temps pour moi de « tomar estado », de prendre un état, il faut bien qu'elle choisisse soit la vie religieuse, soit le mariage, elle choisit la vie religieuse. Donc, on est dans cette situation-là. Thérèse, maintenant, la situation personnelle de Thérèse. Elle a découvert l'oraison 15 ans auparavant. Elle a commencé à faire oraison. Bon, beaucoup de grâce, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, elle tombe malade, alors qu'elle était déjà malade. Finalement, elle reprend la vie communautaire. Et là, elle arrive, en fait, elle se retrouve face à cette situation. Tout le monde la demande au parloir, parce qu'elle est charmante. Hein. Elle a beaucoup de conversations. Et en plus, elle parle de Dieu, ce qui ne gâche rien. Et elle n'arrive pas à se protéger. Elle n'arrive pas à résister à toutes ces demandes de discussion au parloir. Et très rapidement, elle commence à passer ses journées au parloir. Avec cum grano salis, une petite chose qui complique encore, c'est qu'il y a un certain chevalier, dont l'histoire a chastement tué le nom, qui, c'était un phénomène hélas fort courant à l'époque, qui en fait, il venait pour rencontrer Thérèse. Oui, parce que discuter avec une jeune et jolie, religieuse sympathique. Alors, il disait le prétexte, mais c'était le contexte de l'époque. Le prétexte, c'était évidemment de parler du salut de son âme, mais clairement, ses intentions n'étaient pas tout à fait aussi nettes. Du point de vue de Thérèse, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Du point de vue de Thérèse, elle, ne serait-ce que le sens de l'honneur, mais il y avait plus que ça. Il est clair que pour elle, c'était. On ne serait jamais passé à plus loin que des discussions qui devaient rester dans les bornes d'une discussion religieuse. Mais en même temps, c'est clair qu'elle voyait bien, elle était fine, que l'autre lui faisait un peu la cour et que quand on est une femme, ce n'est pas désagréable de se faire un peu de charme, quoi. Bon, un homme non plus, hein, d'ailleurs. Donc, elle voyait bien qu'il y avait une ambiguïté. Mais le problème fondamental de Thérèse, qu'est-ce que c'était ? C'était son affectivité. Elle n'était pas libre de ne pas aimer quelqu'un qui l'aimait. Or, tout amour n'est pas bon. Tout amour n'est pas bon. On n'a pas un devoir de répondre à tout amour. Et elle n'était pas capable de ça. Bon, ça c'est... Donc là, je vous dresse le tableau. Cette crise, cette difficulté, on reviendra tout à l'heure, dure depuis une douzaine d'années, en 1554. Et Thérèse n'y arrive pas. Rien à faire. Elle a beau se battre, elle qui a une volonté de faire, elle n'arrive pas à résister à la tentation des parloirs. Alors parfois, elle y arrive pendant quelques jours, et puis au bout de quelques jours, elle repart au parloir. Elle y arrive même, nous dit-elle, pendant presque une année, mais au bout de presque une année, elle reprend le chemin des parloirs. Et elle n'y arrive pas. Arrive donc le moment de la conversion. Alors, première chose, je vais reprendre en partie les questions que je vous ai posées sur le texte. Qu'est-ce qui éclaire Thérèse sur son péché ? Si vous reprenez le paragraphe 11 de la vie, je voudrais savoir décrire la captivité de mon âme en ce temps-là. Je comprenais bien qu'elle était captive, mais je n'arrivais pas à comprendre qu'elle l'était, ni de quoi, et je ne pouvais croire tout à fait que les fautes dont les confesseurs ne me faisaient pas tellement grief soient aussi graves que je le sentais en mon âme. Donc là, Thérèse, elle éprouve une tension intérieure. D'un côté, elle sent bien qu'elle est captive, qu'il y a un problème. Et puis, de l'autre côté, elle exprime cette tension à ses confesseurs, et ses confesseurs lui disent « Écoutez, ma sœur, vous êtes bien... Quand vous allez au parloir, c'est avec la permission de vos supérieurs. » Bon, les supérieurs, certains étaient un peu critiques quand même. Mais en soi, le chevalier et les autres, ils apportaient d'abondantes aumônes qui permettaient de nourrir quelques sœurs supplémentaires. Donc évidemment, ils étaient tentés de dire oui. Et puis, ils voyaient bien que Thérèse, elle n'arrivait pas à faire autrement. Alors bon, c'est un peu la solution de la facilité, mais c'était comme ça. Donc quand Thérèse allait au parloir, elle n'était pas désobéissante, elle obéissait à ses supérieurs. D'autre part, elle était bien fidèle au cœur. Et enfin, dans cette période, donc depuis 10 ans, elle fait 2 heures d'oraison tous les jours, ce qui n'était pas du tout dans la règle prévue. Elle faisait ça en plus. Donc, les supérieurs disent, il est confesseur. Ma sœur, écoutez, vraiment, vous avez des inquiétudes d'âme, mais je ne vois pas très bien pourquoi. Vous êtes une religieuse fervente. Et même encore plus fervente, puisque vous faites plus que ce qu'exige la règle. Hein, vous faites les 2 heures d'oraison. Pas de problème. Donc, ce n'est pas les confesseurs qui l'éclairent. Qu'est-ce qui va l'éclairer sur son péché? La rencontre avec les confessions de saint Augustin, et plus exactement, nous raconte-t-elle dans le chapitre 9, quand elle entend la voix du Seigneur chez saint Augustin, enfin par médiation, prend la parole de Dieu Élie, elle se dit, j'avais l'impression qu'elle s'était prononcée pour moi, la parole de Dieu, dans saint Augustin. Et puis deuxième, elle arrive devant cette image du Christ très blessé, et là, l'ampleur de son péché lui apparaît, la source de cette tension lui apparaît. Qu'est-ce qui éclaire Thérèse sur son péché? C'est le Christ. Le Christ, parole de Dieu. Le Christ en son humanité, spécialement en sa passion. Qu'est-ce qui éclaire Thérèse sur son péché? C'est la rencontre avec le Christ. Ça, c'est la chose, le point fondamental. Si vous avez, évidemment, vous avez plus qu'un petit vernis de théologie, mais si vous aviez un petit vernis de catéchisme, alors que je sais que vous avez beaucoup plus, vous voyez que là, on est absolument au cœur de la foi. Qu'est-ce qui nous révèle notre péché pour nous en sauver? Qui? C'est le Christ. Le Christ, parole de Dieu incarné. Tout vient du Christ. Tout vient du Christ. L'expérience centrale de Thérèse qui va faire basculer sa vie, c'est une rencontre avec le Christ. Cette rencontre, je voudrais vous faire quelques petites remarques. Ici, il n'est pas question de vision. C'est une rencontre sur le mode de la foi le plus simple et le plus ordinaire qui soit. Lire un livre et être touché par ce qu'on lit. Contempler une image de Jésus, tout ça, c'est la foi. Elle n'entre pas du tout en extase. Il n'y a pas de ravissement, il n'y a rien de tout ça. Pas de vision. C'est le quotidien de la vie chrétienne. La conversion de Thérèse, elle a des formes totalement ordinaires. Ce n'est pas un hasard. Ça va être comme pour nous. Notre conversion, elle trouve sa source dans la rencontre avec Jésus par la foi, par les vertus théologales. Ni plus, ni moins. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Si vous confrontez ça avec l'Évangile, vous remarquerez que Jésus, quand il est face à quelqu'un qui généralement lui demande une guérison, qu'est-ce qu'il veut? Il cherche à l'ouvrir à la foi. Il cherche à l'ouvrir à la foi. Et cette foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que la personne, elle reconnaît son péché. Exemple, le paralytique qui est descendu par le toit. Il y a le paralytique. Ta foi t'a sauvé, tes péchés sont remis. On est là. Et après, pour bien montrer que c'est vrai, il guérit le paralytique. Cette conversion, c'est l'expérience centrale de toute vie chrétienne, de la nôtre. C'est pour nous. C'est vraiment pour nous. Et Thérèse, elle veut nous y accompagner. Alors maintenant, quel est le péché qui est révélé? Vous prenez le paragraphe suivant, après 8.11, 8.12. Une petite phrase de la fin de ce paragraphe 8.12. Je suppliais le Seigneur de m'aider, mais à ce qu'il me semble maintenant, je devais avoir le tort de ne pas mettre toute ma confiance en sa majesté et de ne pas perdre toutes celles que j'avais en moi. Je devais avoir le tort de ne pas mettre toute ma confiance en sa majesté et de ne pas perdre toutes celles que j'avais en moi. Je cherchais un remède, je faisais diligence, mais je ne comprenais pas que tout cela ne sert pas à grand-chose si, repoussant entièrement la confiance en nous-mêmes, nous ne la reportons pas sur Dieu. Le cœur de la conversion de Thérèse, c'est quoi ? C'est de comprendre qu'elle n'arrivera pas à se sauver de son péché tout seule. Elle n'arrivera pas à quitter les parois Loire toute seule. Impossible. Elle a essayé pendant 10 ans. Et pourquoi ça a été si long? C'est parce que Thérèse, elle avait une volonté hyper forte. Clairement au-dessus de la moyenne. À mon avis, clairement très largement au-dessus de la moyenne de nous qui sommes ici. une volonté. Il faut voir comment elle est rentrée au couvent de l'incarnation, hein, avec tous les os qui s'entrechoquaient. Avec, ben voilà, si je reste dans le monde, je vais droit en enfer. Donc, il y a tout mon être en soi qui a envie de rester dans la maison paternelle. Il y a mon père qui veut pas me laisser sortir et c'est la personne que j'aime le plus au monde. Mais je vois, bon, le but de la vie sur Terre, ce qui est tout à fait vrai, c'est la préparation au ciel. C'est le moment de notre mort. Et donc, ben voilà, les enjeux, je pose le truc et donc elle fait un effort de volonté fantastique pour rentrer au monastère de l'incarnation. Après, au monastère de l'incarnation, elle est à temps faire, vous savez, hein, c'est la fin du chapitre 3 de la vie, où elle dit, ça peut paraître curieux comme vocation, mais bon, à temps faire, je voulais aller droit au ciel, non seulement pas aller en enfer, mais aller droit au ciel au moment de ma mort. Donc il me semblait que c'était assez bien vu de faire mon purgatoire sur terre en rentrant dans la vie religieuse, hein. Quelques années de vie religieuse par rapport à l'éternité, ça va, c'est intéressant, c'est un bon deal. Et donc, elle veut, les premières années de sa vie religieuse, elle fait tout, vous relisez, début du chapitre 5 de la vie, elle fait tout avec énormément d'applications pour que ça soit son purgatoire. Hein. Mais vous comprenez, avec énormément d'applications, c'est-à-dire avec un effort de la volonté qui est complètement sidérant. Et cet effort de la volonté rejaillit sur sa santé, ce dont Thérèse, 25 ans après, est bien consciente. Je m'y étais tellement contrainte que ma santé s'en était ressentie. Et quand au bout de 3 ans de vie religieuse, elle tombe malade, alors a priori maladie infectieuse, la fièvre de Malte, peut-être qu'il y en a qui, ceux qui viennent d'un milieu agricole connaissent probablement, c'est une maladie infectieuse qui est transmise par le lait des moutons et des chèvres. Les effets, les symptômes de sa fièvre de Malte, un des symptômes, ça va être quoi? C'est qu'il y a tous ces muscles qui se recroquevillent, qui sont hyper tendus. Elle est hyper, hyper tendue, elle peut bouger juste le petit doigt de la main droite. Ces symptômes, certes, ils ont une origine biologique, mais on a du mal à ne pas y voir aussi une expression somatique de sa tension intérieure. Elle est tellement tendue spirituellement que ça rejaillit sur son corps. Et elle est complètement comme ça, contractée. Ce volontarisme. Alors du coup, quand elle commence à enclencher les parloirs, elle se dit, bah voilà, je vais faire des actes de volonté comme j'en ai fait depuis toujours, pour arrêter d'aller aux parloirs. Et elle n'y arrive pas. En fait, quelle expérience elle fait, c'est qu'elle ne peut pas se sauver toute seule. Même un petit bout. Et nous, mais ça c'est le péché originel, on est toujours spontanément dans cette optique-là. Soit, bah oui, bah c'est à moi de me sauver, il faut quand même que je fasse des efforts. Mon péché, bah voilà, bah c'est à moi de... Et avec souvent cette idée-là, je commence par me sauver de mon péché et quand je serai propre, je pourrai me présenter au Seigneur. Alors ça, c'est la version hard, si je peux dire. Et puis, il y a la version plus soft, c'est « Bah oui, Seigneur, tu me sauves. Je suppliais le Seigneur de m'aider, dit-elle. Seigneur, tu me sauves. Mais enfin, quand même, bon, il faut quand même que moi, j'en fasse un peu, voilà, que je combatte. » En fait, on n'a pas encore bien compris, bien assimilé, que seul le Seigneur sauve. Seul le Seigneur sauve. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura rien à faire, mais ce qu'on aura à faire, ce n'est pas de nous sauver. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'on aura à faire. Rassurez-vous, hein, je ne suis pas du tout quiétiste. Enfin, j'espère. Mais seul le Seigneur sauve. Et c'est cette expérience qu'elle fait. Alors, du moment où elle découvre que malgré sa volonté très forte, il n'y a rien à faire, elle n'arrivera pas à arrêter définitivement les parloirs, elle met toute sa confiance en sa majesté, comme elle dit. Et pourquoi elle met toute sa confiance en sa majesté? Premier paragraphe du chapitre 9. J'éprouvais un tel regret d'avoir montré si peu de reconnaissance pour ses plaies que je crus que mon cœur se brisait et je me jetais devant lui en versant des torrents de larmes, le suppliant de me fortifier une fois pour toutes afin de ne plus l'offenser. Le suppliant de me fortifier une fois pour toutes afin de ne plus l'offenser. devant ce Christ tout couvert de plaies, c'est-à-dire en fait devant Jésus en sa passion, devant le mystère pascal du Christ, elle supplie le Seigneur de lui appliquer, excusez-moi mon vocabulaire est un peu maladroit, mais de lui appliquer tout ce qu'il a souffert pour elle, pour la sauver intégralement. Là est la source du salut, là où est la source du salut. Elle reconnaît qu'elle n'y arrivera pas. Un, elle reconnaît son péché. Deux, elle reconnaît qu'elle n'y arrivera pas. Et trois, elle reconnaît, acte de foi, que oui, le Seigneur est mort pour la sauver et qu'il a tout ce qu'il faut pour la sauver. Conclusion, paragraphe suivant, enfin 9.3. À partir de ce moment, je m'amendais beaucoup. À partir de ce moment, je m'amendais beaucoup. À partir du moment où elle n'espère que dans le Christ, plus en elle-même, mais dans le Christ, elle ouvre grand la porte au salut. Et donc, petit à petit, elle va abandonner les parloirs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 2 années qui suivent? La conversion, ça aussi c'est intéressant pour nous, c'est très pratique et ça correspond au réel. La conversion, nous, toujours le péché originel derrière, on rêve en fait, d'être tout puissant. Et donc, la conversion définitive, comme ça, un instant, un coup de baguette magique. Ça, c'est salut fait carabosse, si vous voulez. Un coup de baguette magique, et c'est bon. Et j'ai plus rien, plus de péché, tout ça, super. Très bien. En fait, on est inscrit dans le temps. Et Thérèse en fait l'expérience. Il faut ouvrir la porte. Mais après, la porte étant largement et entièrement ouverte à la grâce va mettre du temps à nous transformer. Pourquoi ? Parce que nous, on est inscrit dans le temps et on résiste. On est un peu comme, vous savez, une éponge. Une éponge très, très sèche. Vous mettez une goutte d'eau, et bien il faut lui laisser le temps de pénétrer pour que l'éponge elle soit plus souple. Voilà. Bien, c'est pareil pour Thérèse. Donc, pour Thérèse, à partir de ce jour-là, qui est probablement pendant le carême 1554, elle fait des grands progrès, de divers ordres. Première chose, le chevalier, quand même, il est congédié rapidement dans les semaines qui suivent, et il n'y reviendra plus. Il a dû être rondement éconduit, parce que, des années plus tard, quand Thérèse est prieure, elle est confrontée chez une de ses sœurs au même problème. Pareil, un chevalier très assidu à une de ses sœurs. Et le chevalier, il ne veut pas partir. Et Thérèse, elle va voir un jour où le chevalier fait tout un esclandre pour que la sœur vienne. Thérèse va au parloir pour rencontrer le chevalier et lui dit « Écoutez, Seigneur, si vous revenez ne serait-ce qu'une seule fois, je vous dénonce au roi pour que vous soyez mis en prison. » Je ne veux plus jamais vous voir dans les murs de ce couvent. Ce petit, à mon avis, ce petit incident qui est rapporté dans le procès de canonisation, c'est un écho de ce qui a dû se passer et surtout de la violence que Thérèse a dû se faire pour congédier le chevalier à ce moment-là, 15 ans auparavant. Donc le chevalier, huit, out dans les semaines qui suivent. Bon. Mais après, il reste tous les autres. Que, voilà, c'est des amis. Et Thérèse avait beaucoup d'amis, mais qui passent leur temps au parloir. Et Thérèse, elle n'y arrive pas, difficile. Mais elle reconnaît qu'il y a un problème. Elle accepte de reconnaître qu'il y a un problème. Alors, d'une part, le Seigneur lui fait beaucoup de grâces. Ces grâces, à cette époque-là, ce n'est pas les visions, les paroles et tout ça. Non, pas encore. Ces grâces, c'est simplement les grâces de contemplation. Voilà, un peu de quiétude, recueillement surnaturel. La première oraison dont il me semble que le Seigneur me gratifia fut une espèce de recueillement surnaturel, 4e demeure, chapitre 3. Alors, ces grâces-là, l'expérience de l'accompagnement, montre que c'est des choses qui sont encore aujourd'hui largement répandues dans le peuple chrétien. D'ailleurs, ce que précise très bien Marie-Eugène dans « Je veux voir Dieu », ce n'est pas, à proprement parler, des grâces extraordinaires. Ça appartient pas à la définition des grâces extraordinaires. La contemplation, elle est pour tous. C'est un des moyens dont le Seigneur se sert pour nous transformer. Pourquoi la contemplation est pour tous? Eh bien, parce que c'est quoi la contemplation? C'est la foi sous la motion des dons de l'Esprit-Saint, en particulier du don de sagesse. Or, l'exercice, on est tous appelés, enfin, c'est le Seigneur qui décide, mais on est tous appelés à cet exercice des dons du Saint-Esprit qui nous a été donné au baptême. Alors après, effectivement, quel don du Saint-Esprit, ça dépend de ce que le Seigneur veut. Donc on peut tout à fait concevoir une sainteté où il n'y a pas la contemplation avec le don de sagesse associé. Bon, ça reste des cas un peu limites. Ces grâces, la mise en œuvre des dons du Saint-Esprit, c'est pour tous. Il faut le dire haut et fort. Ça fait partie de notre vocation chrétienne. C'est génial, je suis d'accord. C'est extraordinaire, je suis entièrement d'accord. Mais la vie chrétienne, c'est quelque chose de fantastique. Donc, le Seigneur, à travers ça, il la transforme. Ça dure à peu près 2 ans. Et au bout de 2 ans, elle a réussi à congédier tous ceux qui, vraiment, il n'est pas question du bon Dieu, tout ça. Mais il reste quand même une personne, on ne sait pas qui c'est non plus. Et elle n'a pas la force. Elle essaye, elle a la bonne volonté, mais elle n'arrive pas à la congédier. Et il se passe, donc c'est vie 24, les derniers paragraphes de vie 24, que je vous ai mis, elles sont, les derniers paragraphes de vie 24 sont sur la feuille qui correspond au plan. Un jour où j'étais longtemps resté en oraison, et où j'avais supplié le Seigneur de m'aider à le contenter en toutes choses, je commençais l'hymne, et je fus saisi par un ravissement si soudain qu'il me tira presque hors de moi, chose dont je ne puis douter, car ce fut très notoire. Ce fut la première fois que le Seigneur me fit la faveur du ravissement. J'entendis ces mots, « Je ne veux plus que tu converses avec des hommes, mais avec des anges. » Je fus épouvanté, car l'impulsion de l'âme fut très vive, et ces paroles dites au plus intime de l'esprit, etc. Cela s'est bien réalisé, car jamais plus je n'ai pu fonder une amitié, ni recevoir des consolations, ni éprouver un amour particulièrement vif, qu'il ne s'agisse de personnes dont j'entends bien qu'elles aiment Dieu de cette façon et cherchent à le servir. Ce me fut impossible, et peu m'importe qu'il s'agisse de parents ou d'amis. Et un peu plus loin. À partir de ce jour, j'eus le courage de tout quitter pour Dieu, lui qui avait bien voulu, en ce seul instant, car je ne crois pas que cela ait duré davantage, transformer sa servante. Et comment ça se termine, toute cette période-là? Voilà, une intervention de Dieu, alors là, qui, dans le cadre, effectivement, d'un ravissement avec une parole intérieure, ce qui, c'est vrai que c'est pas mal, mais qui libère instantanément Thérèse de ce qui lui restait d'emprisonnement affectif. Alors, là, certes, nous, quoique, il faut laisser le Seigneur libre. Hein. Moi, je ne suis pas Oui, et puis l'expérience aussi de l'accompagnement le montre largement, en tout cas aujourd'hui, que des grâces du style du ravissement ou analogue, paroles intérieures et tout ça, ce n'est pas des choses qui n'arrivent jamais, ce n'est pas vrai. Et qu'il est relativement fréquent aujourd'hui que des personnes, au cours de l'ensemble de leur vie, aient une, deux, trois petites choses de ce genre-là. Bon, ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas si... c'est pas réservé à Sainte Thérèse d'Avila. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette grâce de libération, c'est quoi? C'est le salut appliqué à Thérèse. Et ça, ça va être vrai pour nous. Ça ne va pas forcément prendre, pas du tout nécessairement prendre la forme d'un ravissement, d'une parole intérieure. Mais, le Seigneur, il nous libère. Effectivement, sa grâce nous libère. Alors, je vais vous donner, pour que vous compreniez bien ce que je vais dire, je vais vous donner un exemple qui est la conversion, si je puis dire, de la petite Thérèse. Qui, finalement, il se passe exactement la même chose sous des formes plus ordinaires. Noël 86. Thérèse, la petite maintenant, la petite Thérèse va à la messe de minuit où, précise-t-elle, elle a reçu le Dieu fort et puissant. Elle sent rien sur le moment. Elle ne pense pas à son problème, enfin à ses difficultés. Elle a reçu le Dieu fort et puissant. Elle revient à la maison, au buissonnet. Elle monte l'escalier, à mi-hauteur. Son père, heureusement que c'est la dernière fois. Et là, Thérèse, ravalant mes larmes, elle monte poser son chapeau et elle descend, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, alors Thérèse ne le dit pas explicitement, mais la manière dont c'est écrit, vraiment, tout le suggère. Thérèse comprend qu'à la messe de minuit, où elle a reçu le Dieu fort et puissant, le Dieu fort et puissant qu'elle a reçu en elle l'a libérée de sa fragilité affective, lui a donné cette grâce. Il s'est passé la même chose que pour Thérèse dans le ravissement, la grande, dans le ravissement. Et, sur le moment, Vous voyez, du point de vue sensible, zéro. Elle n'a rien vu, rien senti. Quand elle s'est aperçue de cette grâce qui lui a été donnée en montant l'escalier, quand il y a eu la première occasion de la mettre en œuvre. Et là, ravalant mes larmes, en fait, Thérèse, en l'espace d'un instant, la petite, s'aperçoit dans l'escalier qu'elle est différente d'avant. Et elle est face à un choix. Est-ce que je continue comme avant et que je pleure, parce que c'est plus facile? Ou est-ce que j'accepte cette grâce qui m'a été donnée sans que je m'en rende compte et je la mets en œuvre? C'est ce qu'elle fait. Il s'est passé, à mon avis, en l'espace d'une demi-seconde dans cet escalier, quelque chose, mais un événement qui avait un poids, si vous voulez, un poids énorme dans l'itinéraire de Thérèse, de la petite. Elle a accepté la grâce. Elle a été face à ce choix. Est-ce que j'accueille la grâce qui m'a été donnée et dont je réalise soudain qu'elle m'a été donnée? La petite Thérèse, elle est hyper carmélitaine. Là, elle est hyper carmélitaine, au dernier degré. Et là, elle nous montre comment nous, on va vivre ça. Le Seigneur aussi veut nous donner des grâces de libération, de la même chose, de notre péché, puisque c'est lui seul qui nous sauve. Donc on a le cœur ouvert. Et bien, là, il va nous donner la grâce et il va falloir faire quelque chose qui peut être très onéreux. Moi, je pense qu'il s'est passé, combattre fort dans le cœur de Thérèse à mi-chemin de l'escalier, c'est d'accueillir la grâce qu'on s'aperçoit qu'elle nous est donnée. Est-ce que j'accepte d'agir en fonction de la grâce qui m'a été donnée ou si je continue sur ma lancée? Et ça peut être très dur. Le chemin que nous propose la grande Thérèse et la petite à sa suite, c'est pas du tout un chemin de bronzing machin, mais c'est oui, le Seigneur nous donne la grâce et après, moi, je vais la mettre en œuvre. Je vais la mettre en œuvre. Là, ce que je vous ai donc détaillé, raconté un peu en long, en large et en travers, c'est le cœur de l'expérience de Thérèse, le cœur de ce que le Seigneur lui a fait vivre, parce que c'est le cœur de ce qu'il veut nous faire vivre à nous. La grâce est absolument première. La grâce qui coule du côté du Christ, du mystère pascal, de ce Christ très blessé que rencontre Thérèse. Tout est là, tout est là. Et cette grâce-là, elle est plus que suffisante pour faire de nous des grands saints. Vous voyez le résultat de la vie de Thérèse. Après, c'était quand même... C'est pas mal, le résultat. Quand vous voyez tout ce qu'elle a fait, aussi l'épanouissement de son humanité, le rayonnement de son humanité, qui est assez extraordinaire. Elle est amie avec toute l'Espagne, du plus grand au plus petit. Une capacité d'empathie, une capacité... Enfin, c'est fantastique. Et bien ça, c'est ce que le Seigneur a fait en Thérèse, et c'est ce que, alors chacun selon sa vocation, il veut faire en nous. La seule chose, c'est qu'il faut, comme Thérèse, il faut nous convertir pour attendre tout de la grâce. Tout, et cette grâce, elle se trouve dans le Christ. Tout du Christ. Tout, 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 tout. Alors maintenant, à partir de cet événement central, quelques mots sur avant et quelques mots sur après. Alors, est-ce que ça veut dire d'abord que avant, Thérèse a perdu son temps? Non. Avant la vie de Thérèse, avant 1554, on peut, du point de vue de la relation avec Dieu, on pourrait faire un graphique, ça serait comme ça, vous voyez. Des montées et des descentes. Des montées et des descentes. Mais au fur et à mesure que, on monte un bon coup, on descend encore un bon coup, mais à chaque fois, dit Thérèse, à force de tomber et de me relever, j'ai fini par faire beaucoup de chemin. À force de tomber et de me relever. La vie de Thérèse, c'est comme ça. Alors, je vous donne, ça vous permettra d'avoir quand même à savoir un peu qu'est-ce qu'elle a vécu avant, parce que jusqu'ici, je ne vous en ai presque pas parlé. Thérèse naît d'un milieu qu'a évoqué brièvement le père Bernard ce matin. Donc, milieu de juifs convertis au christianisme. Le grand-père de Thérèse s'est converti au christianisme, a été réconcilié par l'Inquisition en 1483. Ses enfants seront chrétiens. Est vraiment, est tout à fait chrétien, d'un christianisme fervent, et voilà. Et ces milieux convertis, conversos, sont des milieux qui sont très marqués par une recherche d'expérience de Dieu et de relations personnelles avec Dieu. Ils avaient subi une violence qui est quand même assez hallucinante, qui est peut-être la pire qu'on peut subir ici-bas, c'est de devoir se convertir de force. Alors là, la liberté de conscience, ce n'était pas tout à fait ça. Ils ont cherché à pallier, si vous voulez, à cette violence qui leur avait été faite par une recherche de relations personnelles avec Dieu. Et donc, sur les 20 saints canonisés dont nous parlait, la vingtaine de saints canonisés dont nous parlait le Père Bernard ce matin, en fait, il y a une proportion assez impressionnante qui sont issus de ces milieux. Parce que cette recherche de relation personnelle avec Dieu, cette recherche d'intimité avec Dieu, c'est ouvrir la porte à la grâce. Or, la grâce, si vous la laissez faire, forcément, elle fait de vous des saints. Il n'y a pas de mystère. C'est le mouvement même de la grâce. Donc, elle naît dans ce milieu-là. Ferveur enfantine, vous avez tous plus ou moins entendu parler de cette histoire-là. Elle lit une vie de saint, les vies des saints. C'est, vous savez, probablement la même édition que celle qui a converti Saint Ignace de Loyola. C'est exactement la même année et très probablement la même édition. Et elle se dit, oh là là, c'est fantastique, les sainteux, elle est un peu féministe sur les bords, les sainteux, quand on leur coupe la tête, elles vont droit au ciel. Parce que dans cette vie de saint, c'était très largement illustré, et où on voyait donc les, les saintes avec la tête à côté, etc. Et on voyait leur âme qui montait directement dans les bras du bon Dieu. Et elle se dit, ça c'est fantastique. Et elle convainc son petit frère qui n'y comprenait rien de venir avec elle. Pourquoi ? Pour aller se faire couper la tête chez les morts et aller ainsi droit au ciel comme elle le désirait. Bon, moyennant quoi, elle prend la direction de Salamanque. Avec ça, elle ne risquait pas beaucoup de rencontrer des morts. Et surtout, elle est rattrapée par un oncle à 10 minutes de chez elle. Bien. Ferveur enfantine qui grave dès son plus jeune âge cette conviction que le but de la vie, la finalité, si vous voulez, de notre vie, c'est quoi ? C'est le ciel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis, à l'adolescence, fréquentation d'une cousine, Thérèse est charmante à tout point de vue, et elle tombe, elle commence à beaucoup se maquiller. On sait qu'en particulier, elle nous dit le visage et les mains, les jolies toilettes, les sœurs de l'incarnation, 70, il y en avait une qui avait 5-6 ans au moment de l'entrée de Sainte Thérèse l'incarnation, et qui est encore là au moment du procès de canonisation, très âgée, mais qui se souvient bien que Thérèse est rentrée avec une magnifique robe orange avec un liseré de velours noir. Voilà. Et là, elle oublie un peu, elle perd la perspective du ciel. L'objectif, c'est finalement de s'amuser, de se faire plaisir maintenant, quoi. Bon, petite descente. Là, il y a une histoire d'amourette qui aurait pu se terminer par un mariage, dit-elle, avec un de ses cousins. Le père n'est pas trop au courant, mais il sent qu'il y a un truc qui ne va pas trop. Et lui, il a bien décidé que sa fille, c'est lui qui la mariera. Elle prendra le mari que lui veut. Donc, il la met en pension. Et là, en pension, elle est sous la houlette d'une religieuse, Donia Maria Briceño, qui a clairement une grâce pour s'occuper de ces jeunes filles de la bonne société Avilés. Et qui est une femme profondément intérieure, dont la spiritualité, la vie spirituelle impressionne beaucoup ses pupilles. Et là, au contact avec cette sœur, Thérèse reprend le goût du ciel. Et dit-elle, je commençais à perdre l'aversion immense que j'avais envers l'état religieux. Je commençais à perdre, je ne me mets pas trop. Finalement, au bout d'un an et demi, elle ressort, elle est malade. Elle part se soigner à la campagne chez sa grande sœur. Et là, au passage, un de ses oncles lui donne à lire des bons livres, c'est-à-dire des livres de spiritualité. Et là, elle commence à se poser sérieusement la question de la vie religieuse. Avec ses raisonnements, moi, l'objectif, c'est le ciel. Il y a toujours cette polarisation du ciel qui est très bonne. On n'en parle malheureusement pas du tout assez dans la prédication, à mon avis, mais c'est le cœur de la vie sur Terre, quoi. On se prépare au ciel, c'est l'objectif. Et face à ça, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je rentre dans la vie religieuse. Tout ça aidé par les lectures qu'elle fait. Elle rentre dans la vie religieuse. Finalement, elle tombe malade, tout ce que je vous ai évoqué. Elle ressort à nouveau de son couvent pour se soigner. Et cette fois-ci, toujours le même oncle lui donne le troisième abécédaire de Francisco de Osuna, issu du courant du recueillement dont nous a parlé le père Bernard ce matin, qui est le courant dans lequel va s'insérer vraiment Thérèse. Et là, elle découvre comment faire oraison. Et elle commence à faire oraison. Et là, c'est vrai, d'emblée, le Seigneur la gratifie de grâce de contemplation de manière relativement fréquente et habituelle, en quiétude et même union, ce qui est beaucoup plus rare. Voilà. Finalement, elle va pour se faire soigner par une guérisseuse qui manque de l'achever tout à fait, et on la ramène pour mourir à Avila, donc elle est chez son père, et autour du 15 août 1539, elle entre dans le coma. Elle entre dans le coma où elle passe 3 jours, et tout le monde la croit morte. Tout le monde la croit morte, et donc on ouvre déjà sa tombe au monastère de l'Incarnation. Un couvent de Carmes, qui n'est pas très loin, une trentaine de kilomètres d'Avila, célèbre déjà l'office des défunts pour elle. On lui coule de la cire sur les yeux, pour éviter que les yeux, vous savez, les yeux parfois des morts se relèvent un peu, donc comme ça. Et si tout ça, ça n'avait pas suffi, alors qu'on s'apprête à l'enterrer, il y a son frère Lorenzo qui veille le corps, qui s'endort et qui renverse une chandelle sur le lit qui prend feu. Donc vraiment, on est passé, mais à deux doigts de la catastrophe, si je puis dire. Et finalement, au bout de trois jours, Thérèse ouvre les yeux par-dessous la cire. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là? On lui explique, voilà, on vous croyait morte. Alors, première chose qu'elle demande, c'est à se confesser, parce que son père ne l'avait pas laissé se confesser avant. Bon, et surtout qu'on la ramène dans son couvent. Et là, on la ramène donc dans son couvent. Elle reste paralysée pendant 9 mois jusqu'à Pâques. Pâques suivant, Pâques 1540. Et après, à partir de Pâques 1540, progressivement, là aussi ça prend du temps, en priant Saint-Joseph, elle retrouve la mobilité de ses membres, etc. Et début 1542, elle reprend la vie commune. Donc là, pour l'instant, on a eu une ascension. Je voudrais vous faire remarquer que la source de cette ascension, qu'est-ce que c'est? Il y a la découverte de l'oraison. Dans l'oraison, qu'est-ce qui se passe? On reçoit la grâce. Une des grandes convictions, une des convictions fondatrices de Thérèse. L'oraison est le lieu où j'accueille la grâce. Elle reçoit la grâce. Sa grâce, elle l'a conduit à quoi? À une mort de 3 jours. Je ne sais pas si ça vous rappelle des choses. Une mort de 3 jours autour du 15 août. La Sainte Vierge qui est là, tiens. Et après, 9 mois de paralysie, comme un engendrement, qui se termine curieusement à Pâques, la vie. La résurrection. À mon avis, Thérèse, elle n'a jamais pensé à tout ça. Mais on peut quand même se poser la question, s'il n'y a pas un signe que le Seigneur nous donne à travers ça, c'est que la grâce, elle nous conduit à quoi? À une mort et à une résurrection qui se passe dans le cadre d'un engendrement qui prend notre vie, si vous voulez. Dans l'oraison, je reçois la grâce. Et la grâce, tout ça, c'est l'évangile, saint Paul, hein. La grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait mourir pour revivre au cours d'un engendrement qui est l'histoire de ma vie terrestre. Bien. Là, et puis, donc là, on est clairement en montée. Et puis, il y a l'histoire des parloirs dont je vous ai déjà parlé. Donc là, on est plutôt en chute. Surtout la première année, 1542, où du coup, en quelques semaines, elle arrête de faire oraison. Parce qu'elle se dit, attends, c'est pas possible. Vu la vie que je mène avec mon chevalier et tout ça, je peux pas continuer à... Je ne peux pas continuer à fréquenter le Seigneur dans l'intimité de l'oraison. Genre de raisonnement qu'on tient tous un jour ou l'autre. Une tension entre ce qu'elle vit à l'oraison et ce qu'elle vit à l'extérieur, tension entre la vie morale, si je puis dire, et la relation avec Dieu, et, comme on a tous tendance à faire, face à une tension, on supprime un des deux termes, et le péché originel fait que dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on supprime comme terme? La relation avec Dieu. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il conviendrait de supprimer? Alors, on ne peut pas supprimer le problème moral parce que seul Dieu sauve, mais il faut accepter cette tension parce que ce n'est pas les bons et importants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Et c'est ce que dit, à la mort de son père, à la fin 1542, ce que dit le confesseur de son père, Vicente Baron. Il dit à Thérèse, écoutez, voilà votre situation, donc elle se confesse à lui, elle lui explique tout le problème. Et Vicente Baron lui dit, écoutez, ma sœur, quoi qu'il arrive, quel que soit votre péché, et même si ça s'aggrave, etc., surtout, vous n'abandonnez jamais l'oraison. Vous n'abandonnez jamais l'oraison. Parce que c'est dans l'oraison que vous recevrez le salut. Alors, pendant 10 ans, donc là, vous voyez, chute, et après, en fait, pendant 10 ans, on va avoir une montée dont Thérèse n'a pas du tout conscience. Donc 12 ans même, 1542 à 1554. Et cette montée, ça vaut la peine de s'y arrêter un petit peu. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on est dans cette montée. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 12 ans?
Thérèse, elle a toujours son problème, elle a toujours son péché. Bon. En même temps, elle continue à faire oraison. Ça lui est très pénible. Vous relirez, vie, chapitre 7, paragraphe 17. Hein. C'était la période la plus pénible de ma vie. D'un côté, Dieu m'appelait, de l'autre, le monde aussi. Et on aurait dit que je cherchais à concilier ces contraires. Alors donc, elle accepte cette tension, donc c'est très pénible. Elle dit qu'à ce moment-là, bah, pendant l'oraison, elle compte toutes les secondes, elle est plus impatiente, elle est surtout impatiente d'entendre l'horloge qui sonne la fin de l'heure. Ça aussi, ça peut nous rappeler des petites choses. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 12 ans? C'est qu'en fait, la grâce que Thérèse reçoit dans l'oraison, elle travaille son cœur. Comme, alors c'est une image qui n'est pas dans Thérèse, vous aurez vite deviné, c'est un peu comme l'eau dans une falaise bretonne. Il y a sûrement des bretons parmi vous. Hein. Vous savez que les falaises bretonnes, bon, il semblerait qu'il pleuve un peu de temps en temps en Bretagne, donc il y a de l'eau, hein, petite pluie fine, qui s'infiltre dans les falaises. Vous ne voyez pas que l'eau s'infiltre dans les falaises. Hein. Et pourtant, elle travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comment vous saurez qu'elle travaille? C'est qu'au bout de plusieurs siècles, tout d'un coup, il y a la falaise qui s'effondre. Il y a la falaise qui s'effondre. Et bien, c'est exactement pareil pour Thérèse. Pendant ces 12 années, la grâce lui travaille le cœur de manière cachée, secrète, mais très, très réelle et très efficace. Et puis, nous, quand on va s'en apercevoir, c'est quand la conversion, il y a toute la falaise qui s'effondre. C'est pareil pour nous. On a ce désir d'ouvrir grand la porte, tout grand la porte au Seigneur, pour tout entier, de lui remettre tout notre péché. Il faut avoir ce désir, c'est bon. Mais on voit bien qu'en même temps, on n'est pas capable. Hein. Il faut savoir attendre. Du moment que j'ai ce désir, la grâce me travaille, me transforme. Il va immanquablement me conduire à cette conversion. Immanquablement, si je me laisse faire. Il faut juste que je continue fidèlement, malgré les péchés dans lesquels je suis toujours enferré, il faut que je continue à m'ouvrir à la grâce. C'est la seule condition, mais c'est la condition suffisante, suffisante. Et là, on entre dans la deuxième période de la vie de Thérèse. Pour nous motiver, je vais vous lire un petit passage, deux phrases, du début des cinquièmes demeures. Donc les cinquièmes demeures, c'est à partir de la conversion, ce qui se passe après la conversion de Thérèse. Bien que j'ai dit certaines, bien rares sont celles qui n'entrent pas dans cette cinquième demeure dont je vais m'occuper. Il y a le plus et le moins, c'est pourquoi je dis que la plupart y rentrent. La plupart y rentrent. Bien rares sont celles qui n'entrent pas dans cette demeure. Bien rares sont celles qui n'entrent pas dans cette demeure. Oui. Si je garde la porte ouverte à la grâce, entre autres par l'oraison, le Seigneur, il me conduit à cette cinquième demeure. Ces demeures 5 à 7, ça, et Thérèse, elle, toute sa vie, le Seigneur le crie haut et fort à travers la vie de Thérèse, et ensuite de ses filles et de beaucoup d'autres, ces cinquièmes demeures, elles sont pour nous tous. Le Seigneur veut nous y conduire. L'enjeu, c'est d'accepter de s'y laisser conduire et d'être patient. En fait, c'est une forme de l'espérance. Laissez le Seigneur travailler pendant toutes ces années. Alors, après, et je finirai là-dessus, la deuxième partie de la vie de Thérèse, qui va correspondre aux demeures 5 à 7, auxquelles donc on est tous appelés, et le Seigneur veut effectivement nous y conduire, et ce n'est pas réservé à une petite élite, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, la petite Thérèse, Élisabeth et quelques autres. C'est pour tous. C'est ce que le Seigneur dit à travers la vie de Thérèse. Est-ce que Thérèse, elle en est convaincue? Bien rares sont celles qui n'y entrent pas, bien rares sont celles. Dire au passage, pour que vous compreniez cette résistance que nous on a, hein, cette phrase que je viens de vous lire, c'est vraiment la traduction de l'espagnol, mais dans la traduction que j'ai de Marcel Auclair, elle est traduite de manière restrictive. J'ai parlé de certaines d'entre elles, mais rares sont celles qui n'entrent pas dans cette demeure dont je vais m'occuper. Oui, enfin bon, là, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Mais bon, tant mieux. tant mieux. Hein. Mais vraiment, les cinquièmes demeures, c'est pour tous. C'est pour tous. Mais je pense que François Régis, non, tu fais une conférence là-dessus à la fin. Voilà, je pense, j'espère que tu es d'accord. Enfin, ou plutôt, oui, j'espère pour moi que tu es d'accord. Voilà, donc ça. Alors, à partir de ce moment-là, c'est la deuxième partie de la vie de Thérèse. D'abord, il y a bah, le Seigneur lui fait, voilà, l'attire toujours plus profondément. Ça, c'est pour tous aussi. Vous savez, le Seigneur, il a une soif immense de se communiquer à nous. nous, souvent, on réagit comme si c'était lui qui ne voulait pas se donner. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est nous qui n'avons pas la patience d'attendre, hein, qui nous transforme, qui nous prépare. On n'a pas la patience pour les préparations. Mais oui, le Seigneur a une soif folle de se donner. Et il a beaucoup d'autres moyens que se donner avec des extases, avec l'évitation. Et de se donner en vérité, où je comprends qu'il se donne, et où il me transforme en profondeur. Et puis, ce don, cette intimité avec Dieu, elle va rejaillir en une fécondité pour l'Église, que vous voyez dans le cas de Thérèse de plein de manières. D'abord, la fondation donc des Carmes et Carmélites des Chaussées, avec tous les couvents, probablement évoqués ce matin. Ensuite, les écrits. Tous les écrits de Thérèse datent de cette période. En fait, à partir de 1560, il y a de 1554 à 1560, il y a comme le Seigneur transforme en profondeur Thérèse qui lui a ouvert grand la porte, hein, l'introduit dans une intimité complètement folle avec lui. Et à partir de 1560, c'est le temps de la fécondité. Hein, donc vous avez les œuvres, alors je rappelle la vie, écrite entre 1562 et 1565. Il y a probablement eu deux versions, la première étant perdue, celle qu'on a donc, c'est celle de 1565. Deuxième écrit, le chemin de perfection. Là encore, il y a deux versions, 1565 et 1566. Les deux sont conservées. La première, c'est celle qu'on appelle de l'Escorial, parce qu'elle est la bibliothèque de l'Escorial. Et la deuxième, celle de Valladolid, parce qu'elle est chez les Carmélites de Valladolid. Un petit écrit qui est très, 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 très intéressant. Hein, si vous avez, alors, il faut être déjà un petit peu familier de Thérèse si vous voulez faire une étude là-dessus. Mais si vous êtes un petit peu familier des autres écrits de Thérèse, vous pouvez tout à fait faire un devoir sur les pensées sur l'amour de Dieu. C'est un véritable trésor. C'est au confluent de... Vous trouvez tout ce qu'il y a dans le reste des œuvres de Thérèse, vous le trouvez dans ce petit écrit de 7 chapitres, qui part de quelques versets du Cantique des Cantiques. Alors, qui a été écrit, il y a eu là encore deux versions, entre 1566 et 1573-74. Un peu la petite semaine, Thérèse le reprenait de temps en temps. Penser sur l'amour de Dieu. À partir de 1573, à la demande de ses confesseurs, elle écrit le récit de ses fondations, qu'elle continue jusqu'à sa mort en 1582. Donc la dernière fondation, c'est celle de Burgos, 1582, qu'elle écrit quelques semaines avant de mourir. Et puis, 1577, le livre des demeures, écrit encore à nouveau à la demande de ses confesseurs, qui regrette en fait que le livre de la vie soit plus disponible parce qu'il a été saisi par l'Inquisition. Et donc, il lui redemande d'écrire le livre de sa vie, mais cette fois-ci à la troisième personne, de telle manière à ce que si jamais il est saisi, on identifie plus difficilement l'auteur. Hein. Et je vous ai dit ce matin, c'est que je pense qu'il y a quelque chose du point de vue de ce que le Seigneur veut, le fait qu'elle soit à la troisième personne, ça oblige Thérèse à un peu généraliser son expérience. Ce qui va faire que finalement le livre des demeures et le livre de la vie, si tous les deux sont structurés par la vie personnelle de Thérèse, hein, on peut dater les demeures dans la vie de Thérèse. Le deuxième, ils ont deux tonalités qui sont très différentes. Et puis, il y a un dernier type d'écrit. Alors, il y a des petits écrits dont je... de quelques pages, j'ai pas besoin de vous en parler. Et surtout, il y a un autre type d'écrit qui est très intéressant, c'est les lettres. Il y a à peu près 470 lettres de Thérèse qui nous sont conservées. Ces 470 lettres, c'est juste la pointe émergée de l'iceberg et même un iceberg qui est très, très enfoncé. Parce que les estimations les plus faibles, c'est qu'elle aurait écrit entre 10 et 25 000 lettres, entre 10 et 25 000 lettres au cours de sa vie. Elle y consacrait plusieurs heures tous les soirs après matine, hein, entre 11 heures du soir et 2 heures du matin. Elle a écrit, et ces lettres, c'est un trésor. Parce que Thérèse, elle se raconte volontiers, donc on sait ce qu'elle vit, etc. Elle passe sans transition à un problème de nouveau modèle de four de la communauté de Séville, à des considérations sur des problèmes d'oraison, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette sœur elle a quelques problèmes psychologiques, par exemple, hein, il y a des choses de ce genre-là, où qu'est-ce que cette sœur, elle a l'oraison de quiétude, mais du coup, elle a un peu tendance à planer complètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, elle répond, on va voir là, dans ce cas-là, oui, vu comme c'est, vous lui retirez l'oraison et vous l'occupez au jardin, hein, pour un temps, et vous lui faites manger de la viande. Hein, voilà. Bon, et tout ça, ça passe de l'un à l'autre avec plein de conseils. Bon, c'est délicieux, quoi. Voilà. Donc, les œuvres de Thérèse. Bon, je crois que mon temps est largement écoulé. Je vais m'arrêter là.